les secteurs les plus pointus n'arrivent pas à être bien classés.
Bon, merci beaucoup. En dehors des éléments dont le professeur Souleymane Diarra a dit, je pense qu'il y a aussi la question de l'exode des grands chercheurs francophones aux États-Unis et en France. Et le fait que les universités francophones en particulier n'ont pas pu développer des rapports de collaboration assez sérieux avec les universités du Nord, qui est un élément important, parce que beaucoup d'universités aujourd'hui arrivent à générer des ressources indépendantes et faire la recherche, mais beaucoup également génèrent des ressources par la collaboration externe et par la collaboration de recherche avec les universités du monde entier. Donc ça, c'est très important. Maintenant, un élément, je pense qu'il faut souligner, je pense que c'est très important, c'est l'accent sur la recherche. Je crois que les universités francophones en particulier, il y a beaucoup d'accent mis sur, disons, sur l'enseignement, sur la formation, mais pas nécessairement sur la recherche. Donc ça fait que la qualité des enseignements en souffre. Et également, beaucoup de professeurs sont, à cause de l'accent sur l'enseignement, pas sur la recherche, beaucoup de professeurs sont dans la consultation, ils ne sont pas récompensés par le travail de recherche qu'ils ont fait. Donc tout ça là ensemble explique pourquoi en fait les pays francophones sont en retard.
D'accord, on pourra revenir sur tout cela d'ailleurs. David Zoumenou, vous êtes en Afrique du Sud, donc vous connaissez bien un peu les deux systèmes. Est-ce qu'il est juste de présenter la question sous forme d'opposition entre système francophone et système anglophone?
Oui, je pense qu'il est juste raisonnable de le présenter comme ça. Quand j'étais au Bénin, fraîchement sorti de l'école nationale d'administration, je me posais beaucoup de questions, savoir ce que la formation que j'ai reçue peut me permettre d'être vendu sur la scène internationale. Et j'avoue que j'avais du mal à répondre à cette question. C'est vrai que le Bénin était connu comme un pays producteur de cadres. Mais à partir de notre génération, je veux dire la génération 90, la génération d'après la conférence nationale, le système éducatif au Bénin était déjà en déconfiture. Et là, moi, j'ai voulu carrément les aider du monde francophone pour faire l'expérience du monde anglophone et voir un peu à quoi cela ressemble du point de vue de l'efficacité et surtout du point de vue de la capacité d'apporter des solutions aux problèmes auxquels nos pays ou notre continent sont confrontés. Et je pense que c'est à la recherche de solutions à cette question, à ces interrogations, à mon propre niveau, que j'ai pu décrocher une bourse pour aller étudier à Vich University en Afrique du Sud, et je pense que l'opposition est juste pour permettre de voir là où on traîne les pas et là où les autres sont en avance, particulièrement ce que le président a dit à travers le partenariat Nord-Sud.
Donc c'est vraiment un débat légitime qu'il faut avoir. Alors, professeur Diagne, la recherche est une composante essentielle dans la vie d'une institution universitaire. Beaucoup d'universitaires sont obligés à un moment ou à un autre de poursuivre leur recherche ou leur carrière en dehors du continent. Est-ce que les pouvoirs publics sont conscients de ce que cela peut engendrer comme perte pour le continent?
Il est vrai que l'infrastructure même de la recherche décisif dans la comparaison que nous avons faite entre le système francophone et le système anglophone, c'est la langue. Pour publier sa recherche, vous êtes mieux récompensé, si vous voulez, si votre recherche est publiée en anglais et dans des revues anglaises, que si elle est publiée en français et dans des revues françaises. Et pour ce qui est de la recherche dans les sciences, disons, les sciences dures et les sciences expérimentales, évidemment, les laboratoires qui sont nécessaires à une recherche de qualité sont en général situés dans ce qu'on appelle le Nord. Par conséquent, la mobilité intellectuelle, de toute façon, la mobilité académique a toujours été une composante de la vie des universités et de la vie académique, mais elle est encore plus nécessaire, si je puis dire, pour les universités du Sud. Mener une recherche de qualité, c'est nécessairement se déplacer périodiquement à intervalles plus ou moins rapprochés pour aller se ressourcer, pour ainsi dire, dans les universités du Nord où les infrastructures de la recherche se trouvent et également où les lieux de publication qui vous donnent une visibilité académique au-delà de votre petite université et de votre petit département. Alors, cette visibilité-là se joue là.
Oui. Le doctorant qu'on a eu au début de l'émission, le doctorant de Niamey, parlait d'un problème d'accès aux documents, mais à l'ère du numérique, ce n'est pas acceptable quand même. Les universités peuvent au moins avoir accès à ces documents via, disons, plus de plateformes numériques, non?
Vous avez parfaitement raison, parce que dès lors que les possibilités techniques existent, il est inacceptable que l'on ne profite pas totalement de ces possibilités-là. Évidemment, la question de la documentation devrait être une question réglée, puisque le numérique nous donne une solution possible. De la même manière, d'ailleurs, que les universités virtuelles vont probablement être appelées à se développer, parce qu'une des grandes composantes de la crise que les universités vivent, c'est la composante démographique.
Alors, professeur Wang Chekong, l'enseignement coûte cher et il est évident aussi que le financement pose problème. Comment doit-on s'y prendre entre la nécessité d'investir dans un enseignement de qualité et un droit à l'éducation?
C'est très important de penser à la question de gouvernance, donc des initiatives que nous devons prendre donc pour faciliter l'accès à l'éducation. Maintenant, la question financière que vous soulevez est tout aussi importante également. Maintenant, de plus en plus, il faut que on ne se contente pas simplement des frais de scolarité. Il faut, par exemple, que des universités dans certains secteurs soient pratiquement des mini-entreprises, donc où les gens sont capables de générer des produits, de générer
des ressources,
de développer des activités qui sont génératrices de revenus. Et ça, c'est tout à fait possible et ça se fait aujourd'hui dans le domaine de l'informatique, dans le domaine des études africaines, par exemple, il y a des universités qui développent donc des documentaires, donc qui peuvent être commercialisés, et dans le domaine de l'agriculture, etc. Maintenant, le troisième élément, c'est les fonds de recherche. Le gouvernement joue un rôle important, mais les organisations internationales jouent également des rôles extrêmement importants. Et de là, le partenariat, donc les universités locales avec les universités étrangères, c'est vital. Par exemple, pour donner un simple exemple, disons, j'ai créé une école au Bénin, et cette école a pu avoir une grosse subvention des Britanniques pour faire une étude sur le système du Nigeria, quelque chose que nous ne pouvons jamais générer par nous-mêmes. Donc c'est pour dire quoi que ces trois fronts, l'entrepreneuriat, la collaboration internationale, en même temps que les frais de scolarité, et les frais de scolarité de moins en moins, doivent être mis ensemble, quoi, donc pour pouvoir générer les ressources qu'il faut, donc pour pouvoir avancer dans la recherche.
Alors, David Zunmenou, les étudiants sud-africains ont souvent aussi protesté contre le coût élevé des études en Afrique du Sud. Mais n'est-ce pas un peu ce qui permet aussi d'attirer les universitaires d'un peu partout et aussi de dispenser un enseignement de qualité?
Oui, tout à fait. Je pense que l'idéologie ici en Afrique du Sud, c'est d'abord l'excellence. Et parce que c'est un pays qui veut vraiment compétir avec le système global, donc de se faire chercher à s'aligner avec les meilleurs de ce monde. Enfin, on veut être en coopération avec Harvard et Oxford, avec l'essentiel des bonnes universités américaines, et veut de se faire tailler un peu le profil de ces étudiants sur le profil des étudiants qu'on peut retrouver ailleurs. Néanmoins, je pense que le pays traverse une crise, que je peux appeler une crise universitaire, liée à ce que Professeur Wachekou vient de mentionner, à savoir le coût financier de l'éducation en Afrique du Sud. Et quand on comprend un peu le contexte historique de ce pays, et on comprend un peu les effets que cela peut avoir sur l'éducation, particulièrement pour la majorité noire, on est en droit de dire, évidemment, il y a de l'excellence, mais pour y accéder, il faut se lever tôt et il faut être bien dosé. C'est ce qui explique d'ailleurs les grèves perlées qu'on a observées dans le système éducatif depuis 2016 et qui continuent d'ailleurs, obligeant le gouvernement à revoir un peu le coût d'accès à l'éducation pour permettre en tout cas aux jeunes de se libérer du joug de la pauvreté.
D'accord. Professeur Souleymane Bachir Diagne, quand l'université Cheikh Diop compte plus de, ou en tout cas autour de 80 000 étudiants, presque tous boursiers d'une façon ou d'une autre, et qui étudient aussi presque gratuitement, comment l'université peut-elle s'en sortir?
Évidemment, voilà, c'est la quadrature du cercle, parce qu'il faut évidemment tenir à un enseignement public et un enseignement qui soit donc quasiment gratuit. Mais toute la question est de savoir s'il peut être aujourd'hui complètement gratuit. Peut-être que sauver l'enseignement public, un enseignement public de qualité, c'est faire en sorte que la participation des étudiants, des familles, disons, soit augmentée. C'est devant cette question-là que l'on s'est trouvé, par exemple, au Sénégal, lorsqu'il y a quelques années, il a fallu réfléchir à un moyen de revitaliser l'enseignement supérieur, de réformer un enseignement supérieur qui soit un enseignement de qualité, qui soit un enseignement inscrit véritablement dans la réalité socio-économique du pays. Et qui ne soit pas simplement une manière, justement, de maintenir ces 80 000 étudiants, parce qu'il y a également la qualité des enseignements et de la distribution des étudiants entre les différentes facultés et les différentes disciplines. Sur les 80 000 en question, vous aurez une grosse moitié qui va se concentrer à la faculté des lettres et sciences humaines. Ça aussi, c'est un problème. Il faut que nous développions, les universités doivent développer des enseignements dans les secteurs des sciences, des techniques, de l'ingénierie, des mathématiques, beaucoup plus que dans les humanités et les sciences sociales, où malheureusement, beaucoup d'étudiants se trouvent au fond par défaut. Non pas qu'ils aient quelques vocations que ce soit dans les humanités et les sciences sociales, mais ils se trouvent là parce qu'ils ont fui et horrifié devant les études de mathématiques. Et ça aussi, c'est un autre problème qui s'ajoute à la question démographique.
D'accord. Alors, professeur Wang Chekon, faut-il se défaire de la gratuité dans l'enseignement supérieur?
Je pense que oui et non. D'abord, oui, parce que, comme le professeur Bachir Diagne l'a souligné, le poids financier devient de plus en plus lourd, donc il faut trouver une solution. Maintenant, il faut être créatif. Par exemple, il y a des systèmes que les gens développent de prêts, bourses, que l'on donne, ou bien ce qu'on appelle work study, où les étudiants travaillent sur le campus, les étudiants travaillent sur les projets de recherche pour pouvoir réduire les frais de scolarité. Donc il est possible, par exemple, que les universités réduisent les coûts d'opération en impliquant les étudiants. Et donc, dans ce système-là, savoir que le coût de la formation est couvert, en même temps que les étudiants n'ont pas à faire face à des factures très élevées. Mais j'insiste encore une fois de plus sur le fait qu'il y a des financements qui sont aujourd'hui disponibles pour la recherche. Ouais. Aujourd'hui, la recherche en Afrique, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe. Donc, par ce biais, les chercheurs, les professeurs ont la possibilité de trouver des sources de financement alternatives, quoi. Donc, pour permettre aux universités de survivre, oui.
D'accord, ça marche. Donc, nos téléspectateurs ont également été nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Faisor Kongolo à Kananga, en RDC, dit que l'enseignement est au rabais vu les moyens alloués à ce secteur dans certains pays et l'absence d'une politique adaptée. Imoru Bondabou à Segbana au Bénin écrit « Parmi les obstacles, il y a la misère des étudiants et la mauvaise politique sectorielle du gouvernement. En plus, le financement des recherches est trop faible. » Doba Johnsala à N'Djamena au Tchad pense que les universités africaines sont moins performantes parce que les États africains ne comprennent pas que le développement d'un pays passe inéluctablement par un enseignement de qualité. Voilà donc quelques-unes des nombreuses réactions sur notre page Facebook. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient dans une courte pause, après une courte pause. de vous retrouver pour la seconde partie du Washington Forum. Abdelrahman Dia, la présentation. Je rappelle nos invités depuis nos studios de New York, Souleymane Bachir Diagne, chef de département à Columbia University, de nos studios de Londres, Leonard Wontjekon, professeur d'économie à Princeton, et David Zunmenou Zdossou, chercheur indépendant à Pretoria. Au Cameroun, plus de 240 institutions d'enseignement supérieur privées sont fonctionnelles dans 8 des 10 régions du pays, d'après les chiffres officiels. Cette diversification de l'enseignement privé est bien visible à Yaoundé, où il fait concurrence aux universités d'État. C'est un reportage d'Emmanuel Jultin.
L'offre en formation dans les institutions privées d'enseignement supérieur est variée au Cameroun, notamment à Yaoundé.
Nous formons dans les différentes filières de commerce et gestion, technologie et industrie, tourisme, santé, communication.
L'ISAP, entendez, Institut de technologie appliquée de gestion, offre aux étudiants 3 parcours. Le BTS, la licence professionnelle et le master professionnel.
Des formations qui attirent de plus en plus les étudiants au détriment des universités publiques.
Les professeurs prennent le temps d'expliquer, ils prennent le temps de répéter. Si tu n'as pas compris, tu poses ta question.
Contrairement aux universités publiques, nous sommes par exemple, cette année on était par exemple 8 par salle.
Dans les universités publiques, on apprend juste la théorie pourtant. Dans les universités privées, on apprend et la théorie et la pratique.
À l'ère de la concurrence, les institutions privées d'enseignement supérieur battent même campagne par des affiches à la veille de la rentrée académique. D'autres organisent des journées d'orientation pour les nouveaux étudiants.
Ce qui me motive à fréquenter une université privée, c'est qu'il y a de bons professeurs, des professeurs qualifiés et l'enseignement est de haute qualité.
La langue d'apprentissage des étudiants sort également certaines universités privées du lot.
Avant d'arriver ici, je me suis rendue dans d'autres instituts. On enseigne là-bas seulement en français. Et je ne pouvais pas étudier en français parce que je suis d'expression anglaise. C'est pourquoi je suis venue ici à Sciences Po.
Au ministère de l'enseignement supérieur, l'on se réjouit de cette offre quantitative et qualitative de formation.
242 instituts privés d'enseignement supérieur et même des universités maintenant sous-régionales, par exemple. Vous avez par exemple l'Université protestante d'Afrique centrale, l'Université catholique d'Afrique centrale, vous avez l'Université inter-État Cameroun-Congo à San Milima, qui est une université entièrement numérique, comme on en rencontre en Amérique, en Inde et en Chine.
À noter que les institutions privées d'enseignement supérieur du Cameroun sont sous la tutelle académique des universités d'État.
Merci beaucoup à Emmanuel Jultap. Alors, professeur Wontjekon, parmi les solutions, donc, il y a les universités privées. Vous avez vous-même ouvert un établissement au Bénin. On ne peut pas parler de concurrence, mais plutôt de complémentarité, non?
Oui, c'est ça. Je pense que c'est très important de faire la compétition aux universités publiques. Mais également, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura plus d'innovation dans le curriculum. Et comme les étudiants qui ont été interviewés ont souligné, c'est qu'il faut être plus agressif, par exemple, dans l'introduction des stages, dans l'implication dans la recherche, les échanges internationaux, et donc relever la qualité par ce biais-là. Et également être agressif sur le recrutement des professeurs. Donc dans mon université, par exemple, nous avons cette année recruté essentiellement, en tout cas une bonne partie sur le marché américain. Donc il y a des professeurs du niveau international qui enseignent dans notre école. Donc, bref, je pense que les écoles privées, bien régulées, sous le contrôle, donc la régulation de l'État, c'est un élément très important pour pouvoir élever le niveau. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de tout faire pour que ces universités privées puissent également collaborer avec les universités publiques locales, notamment sur le plan de la recherche.
D'accord. Professeur Diagne, l'université a pour objectif premier de dispenser la connaissance, mais elle prépare aussi à la vie active. Faut-il repenser le modèle universitaire africain pour mieux aider cette jeunesse à s'insérer plus facilement dans le milieu professionnel une fois sortie?
Oui, absolument. Et il ne faut pas non plus oublier une des fonctions de l'université qui est la promotion sociale et la réduction des inégalités. Il faut toujours placer l'université dans cette mission qui lui est dévolue, une mission de constitution, de transmission des savoirs et de promotion et de développement des individus et de réduction des inégalités. C'est la raison pour laquelle je reviens sur un point que Léonard a eu raison également de souligner, c'est l'institution publique qui a cette mission de réduction des inégalités. Et par conséquent, il faut toujours la renforcer. Maintenant, le renforcement de l'université suppose également, effectivement, que l'université ait souci du placement de ses étudiants. L'université ne peut pas simplement être une sorte de monde fermé sur soi qui décrète que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de transmettre des connaissances sans se soucier au fond de l'actualité de ces connaissances, ni même se soucier également de la pertinence de ces connaissances pour le monde dans lequel nous vivons. C'est la raison pour laquelle la réflexion prospective s'impose. Il faut comprendre dans quelle société nous vivons, vers quelle société nous allons, et par conséquent définir la mission de l'université à partir des sociétés vers lesquelles nous allons et dans le monde entier. L'Afrique ne peut pas se couper du reste du monde. Et c'est la raison, par exemple, pour laquelle il faut effectivement que l'université soit toujours attentive aux nouvelles connaissances qu'il faut constituer, qu'il faut transmettre. Et c'est donc, vous avez parfaitement raison de souligner que l'inscription de l'université dans la réalité socio-économique de nos pays est un paramètre crucial.
D'accord. Alors, David Zunmenou, le reproche qu'on entend souvent, et que d'ailleurs le professeur Diagne a brossé plus tôt, c'est que ces universités forment beaucoup de littéraires et pas assez de scientifiques. Comment est-ce qu'on peut inverser la tendance?
Je pense que les problèmes auxquels nous sommes confrontés nous y obligent. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut apprendre aujourd'hui à former des gens qui sont capables d'imaginer, de rêver, d'oser, et dans le domaine scientifique, d'innover. Sans ça, on ne bougera pas. Et c'est essentiel de mettre l'accent sur ça. Mais avant de développer, je voudrais juste développer un petit point. Parce que je me dis, le développement des institutions privées est une bonne chose, car cela apporte de l'excellence dans la formation. Mais en même temps, ça laisse orphelines les institutions publiques qui sont délaissées et où le niveau de formation décline d'année en année. Si on fait une comparaison des universités publiques et des universités privées dans le contexte africain, on se rend compte que les étudiants qui sont dans le secteur, dans les institutions publiques, sont délaissés par exemple l'Université nationale du Bénin. Les gens continuent de s'asseoir sur des briques dans les cours et il n'y a pas de programme d'orientation. On ne suit pas l'étudiant. On ne cherche pas à identifier ses passions, ses compétences pour pouvoir l'orienter dans une filière qui lui permette de développer ses habiletés. Et résultat, nous formons des littéraires qui sont bien dans les livres, mais qui sont incapables de développer un produit qui transforme la société, comme dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'agriculture. Même les ingénieurs agricoles que nous formons dans ces institutions-là s'asseyent au bureau et se comportent comme des patrons au lieu d'être sur le terrain pour aider les familles à transformer la façon de produire. Donc on a ce problème-là et il faut vraiment que le discours soit bien ficelé, bien harmonisé, bien passé pour que nous comprenions que non, à l'heure de l'informatique, des nouvelles techniques de l'informatique, on a besoin de mettre beaucoup plus d'accent sur les sciences, d'encourager les enfants, les jeunes vers ce domaine-là plutôt que de les laisser choisir un domaine où la vie semble facile parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas le choix.
Voilà, malheureusement. On arrive au terme de cette émission. Je vous invite à poursuivre le débat sur notre page Facebook. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette émission que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook. Sans oublier, un grand merci à tous nos télépartenaires et à toute l'équipe qui m'a aidé donc à réaliser cette émission. À très bientôt. Au revoir.
les infos.